Je remercie Mathieu Terrier d'avoir bien voulu intervenir cet après-midi pour nous partager ses connaissances et réflexions sur la gnose chiite. Mathieu Terrier est chercheur au CNRS, au laboratoire d'études sur les monothéismes, comme d'ailleurs les trois intervenants de ce matin. Ses recherches portent principalement sur les doctrines chiites et mises en relation aussi avec les philosophes de l'Antiquité, sur l'histoire de la philosophie islamique et chiite, imamite en particulier, et puis sur les relations entre philosophie chiite et soufisme. Parmi ses ouvrages, une histoire de la sagesse et philosophie chiite, l'aimé des cœurs de Qutbuddin Ashkenazi. Voilà, ben,
Merci.
donc merci Mathieu. Et...
Merci. Alors, est-ce qu'il faut que j'appuie sur quelque chose? Non, apparemment, ça. Bon, ça va. Merci beaucoup, Pierre-Laurie. Il faut d'abord vous dire à toutes et à tous la joie et l'honneur qu'il y a pour moi à participer à une journée Henri Corbin, éminent chercheur à qui je dois une grande partie de ma vocation de chercheur en islam spirituel. Et joie et honneur redoublé d'être invité à parler aujourd'hui de Saïd Haïder Hamouli, auteur qui fut si cher à Henri Corbin et qui est aujourd'hui au cœur de mes recherches. Le thème de cette journée, gnose et gnosticisme, m'amène à revenir sur une question soulevée par le travail d'Henri Corbin lui-même sur l'œuvre de ce penseur, Haïder Hamouli. Et au-delà de cette question de taxinomie un peu aride, philosophie chiite ou gnose chiite, à revenir sur les rapports entre les trois domaines de l'islam explorés par notre dédicataire Henri Corbin, le chiisme, le soufisme et la philosophie. Alors, c'est à Henri Corbin que Saïd Haïder Hamouli, donc mort à la fin du XIVe siècle, sans qu'on ait la date précise d'ailleurs de son décès, c'est à Henri Corbin que Saïd Haïder Hamouli doit d'avoir ressuscité son œuvre à travers l'édition, en collaboration avec Osman Yahya, de trois de ses ouvrages entre 1968 et 1975, mais aussi les commentaires pénétrants qu'en fit Henri Corbin dans plusieurs de ses articles et ouvrages, en particulier en Islam iranien, tome 3, Chiisme et Soufisme. En retour, je le crois, c'est à Haïder Hamouli que Henri Corbin doit d'avoir suscité certaines de ses vues fondamentales sur les rapports entre le chiisme imamite, le soufisme et la philosophie, soit presque tout, sauf la gnose ismaélienne tout de même, presque tout ce que Henri Corbin tenait pour l'islam spirituel, voire pour l'essence même de l'islam. En 1968, Henri Corbin, avec la collaboration d'Osman Yahya, éditait à Téhéran et Paris deux œuvres de Haïder Hamouli, Jami' al-Asrar, traduit la somme des doctrines ésotériques, et Fi Ma'rifat al-Wujud, de la connaissance de l'être, rassemblées sous le titre La philosophie chiite. Ce syntagme de philosophie chiite non seulement n'apparaît pas dans les textes de Haïder Hamouli, mais constitue un apax dans l'historiographie de la pensée en islam. Ce qui s'explique précisément pour Corbin par la négligence prolongée dont ce courant, cette pensée, la gnose chiite, aurait fait l'objet. Dans son introduction à l'ouvrage, Henri Corbin écrit, page 6, on peut estimer que par son ampleur, l'œuvre de Saïd Haïder Hamouli fait pendant, pour la période pré-Safavide, à celle d'un Molla Sadra Shirazi pour la période Safavide. Son importance du point de vue philosophique est comparable. Il sera désormais impossible de traiter de la philosophie chiite et partant de la philosophie islamique en général sans tenir compte de cette œuvre. Mais à la page suivante, page 7, c'est sous le titre de Gnose chiite duodécimaine que l'œuvre de Hamouli est présentée. Et Henri Corbin, qui identifie d'abord la gnose à une philosophie théosophique, attribue finalement à Hamouli ceci, de montrer, je cite, comment d'éminents penseurs n'ont évité l'échec philosophique qu'en se ralliant finalement à cette gnose chiite, Irfan al-Shi'i, qu'il professe lui-même, c'est-à-dire Hamouli. Henri Corbin suggère là, chez Hamouli, une critique de la philosophie et l'idée de son dépassement par la gnose. L'expression de Refan et Shiri est également absente des œuvres de Hamoli en tant que telle, mais la notion de Refan toute seule s'y trouve en effet valorisée. Le terme Refan signifie littéralement connaissance, et comme celui de Ma'rifa, de même racine, est particulièrement affectionné dans le soufisme, il désigne une connaissance spirituelle, plus mystique qu'intellectuelle ou représentative. Connaissance spirituelle propre à l'homme, le terme ilm, science, pouvant lui désigner la science divine. Mais le terme de Refan est aussi utilisé depuis le XVIIe siècle, donc après la période de Hamoli, en Iran chiite, pour désigner une pensée imprégnée de soufisme, alors même que le terme de tasawwuf, littéralement soufisme, est devenu péjoratif et même accusatoire dans l'Iran chiite safavide. Le terme de Refan recouvre ainsi, en milieu chiite moderne, à la fois une intégration du soufisme spéculatif et un refoulement du soufisme confrérique. Et c'est bien comme Refan Shiri, gnose chiite, et non comme Falsafa Shiria, philosophie chiite, que les auteurs contemporains de langue arabe et persane, à la suite d'Henri Corbin, désignent l'œuvre de Haider Hamoli. Toutefois, la traduction de Refan, notion propre à la pensée islamique prémoderne et moderne, par la notion de gnose, empruntée à l'histoire des religions anciennes, il en a été question amplement ce matin, ne va pas non plus de soi. Quelle est donc la pertinence de ces expressions de philosophie chiite et ou de gnose chiite pour désigner l'œuvre de Haider Hamoli? L'intérêt de cette question taxinomique un peu aride est de nous amener à examiner à nouveau frais la conception que se faisait Haider Hamoli du chiisme, du soufisme et de la philosophie ainsi que du rapport entre les trois. Alors le lecteur du Jami' al-Asrar, le principal traité édité dans la philosophie chiite, ne peut que s'étonner. L'auteur ne fait aucune référence à la falsafa, la philosophie hellénistique de l'islam, mais vise essentiellement à harmoniser les deux traditions du chiisme imamite et du soufisme. Un même étonnement peut d'ailleurs saisir le lecteur de l'histoire de la philosophie islamique d'Henri Corbin, qui traite abondamment de l'ésotérisme chiite, duodécimain et ismaélien, puis du kalam, la théologie dialectique, avant d'aborder, et somme toute assez brièvement, la falsafa, identifié communément à la philosophie en islam. Alors, relevant le paradoxe du titre donné par Henri Corbin aux œuvres de Hamoli, notre ami et collègue Daniel De Smet, ici présent, a tenté de circonscrire le concept de philosophie chiite par deux séries de conditions ou de critères. Alors, tout d'abord, peut-être appelée philosophie, qu'elle s'appelle falsafa ou pas en arabe, une pensée, un, qui d'une manière ou d'une autre fonde sa réflexion sur la raison, deux, qui porte sur des sujets comme Dieu et les premiers principes, l'origine du monde, l'âme humaine, la théorie de la connaissance, etc., trois, qui possède une double dimension théorique et pratique, à l'instar de la philosophie antique, comme l'a magistralement montré Pierre Hadot, et quatre, qui pour inspirer qu'elle soit par le Coran et la tradition islamique, dépend directement ou indirectement de sources grecques. En second lieu, peut être appelée philosophie chiite, une pensée qui, un, se perçoit comme l'héritière de l'enseignement des imams, en l'occurrence les 12 imams du chiisme duodécimain, et se présente par conséquent comme une sagesse inspirée, hikma. Deux, qui suivant l'axe de pensée duel du chiisme, qui distingue en toute chose un zahir et un batin, une dimension, enfin un aspect exotérique extérieur et une dimension ésotérique ou intérieure, une pensée donc qui est attachée au sens intérieur ou caché, batin, de la révélation, soit une philosophie ésotérique. Et trois, une pensée qui est liée aux sciences religieuses du chiisme, l'exégèse coranique, tafsir, les traditions imamites, hadith, la théologie dialectique, kalam, voire le droit, fiqh. Alors, si l'on confronte cette grille de conditions à la pensée de Hamoli, on trouve d'abord pour la première série, qui définit une philosophie, un, que sa pensée fait bien appel à la raison comme source de connaissance, mais à côté de deux autres, la tradition scripturaire, naql, et le dévoilement spirituel, kashf, qui prennent souvent le pas sur elle, sur la raison. Deux, on trouve que Dieu, les premiers principes et surtout l'âme humaine sont au cœur de ses méditations. Trois, que sa pensée a bien une double dimension théorique et pratique, métaphysique et éthique, tout en étant principalement spéculative. Et quatre, en revanche, que sa dépendance à l'égard de sources grecques est partielle, indirecte, inconsciente, voire refoulée. Amoli se réclame principalement de sources islamiques, comme le Coran, les hadiths des imams chiites et des écrits soufis, notamment d'Ibn Arabi. On relève pourtant dans son œuvre un certain nombre de citations des Ikhwan al-Safa, les frères de la pureté, collectif de philosophes du IXe siècle, et quelques citations aussi d'Ibn Sina, Avicenne, mais surtout l'omniprésence de thèmes néoplatoniciens sur lesquels je reviendrai. Alors, sur la seconde série de traits, définissant une philosophie comme chiite, on trouve chez Amoli, un, que sa pensée se veut clairement l'héritière de l'enseignement des imams et se présente effectivement comme une sagesse inspirée, mais qu'en ceci, elle penche au sein du chiisme vers ce que les juristes théologiens imamites ou duodécimains dénoncent comme exagération, roulou. Deux, on trouve que sa pensée s'attache entièrement à dévoiler le sens caché ou ésotérique batten de la loi révélée ou du livre de Dieu. Trois, qu'elle étant étroitement liée aux sciences religieuses chiites du tafsir, du hadith, du kalam, mais aussi du soufisme ou de la science mystique, qui passe pour être une science religieuse sunnite et non chiite. En somme, si la pensée de Amoli peut évidemment être désignée comme chiite, encore qu'en un sens à préciser, il est plus malaisé de la désigner comme philosophie, étant donné que l'auteur ne se réclame jamais de la falsafa et traite même durement, nous le verrons, ce qui se nomme ainsi, c'est-à-dire une connaissance acquise essentiellement par la voie de la raison. À l'encontre peut-être du parallélisme tracé par Corbin entre Haïdar Amoli à l'époque pré-Safavide et Molla Sadra à l'époque Safavide, il me semble que la philosophie chiite proprement dite, conjuguant les héritages de la philosophie grecque, de l'avicénisme, de l'école de l'Ishraq, la sagesse orientale ou illuminative de Sohrawardi, avec l'enseignement spirituel des imams chiites, il me semble que cette philosophie chiite n'apparaît précisément qu'à l'époque safavide, dans les œuvres de Mirdamad, de Molla Sadra et de leurs élèves. Des penseurs qui d'ailleurs ignoraient tout de l'œuvre de Haïdar Amoli, dont les manuscrits ne circulaient pas à l'époque et dont seules quelques citations anonymes étaient passées par eux. Alors revenons maintenant sur la notion de gnose, qui a été amplement commentée ce matin, pour interroger son équivalence au refan, la connaissance spirituelle promue par Amoli. Alors, je citerai là quelques phrases du grand spécialiste Henri-Charles Puech, qui a été cité ce matin, pour quelques éléments donc de définition universelle et transhistorique. On appelle et peut appeler gnosticisme et aussi gnose toute doctrine ou toute attitude religieuse fondée sur la théorie ou sur l'expérience de l'obtention du salut par la connaissance. La gnose sera ainsi définie, non pas à la manière d'un concept abstrait ou sous l'aspect d'un système strictement spéculatif ou purement mythique, mais comme style de vie, comportement concret et existentiel. Et d'insister sur les aspects suivants. La gnose comme processus spirituel implique une interrogation de l'homme sur lui-même, son origine, sa nature, sa destination et son salut. Un retour à son soi véritable, spirituel ou divin, un rejet du corps, considéré comme un vêtement ou un voile, une volonté de fuir le monde naturel et social, considéré comme la source de tous les maux de l'âme, une aspiration à accéder au monde divin, c'est-à-dire au salut, par la connaissance spirituelle ou la contemplation directe du monde intelligible. Alors, tous ces thèmes sont présents, bien présents dans l'œuvre de Amoli, à ceci près qu'il est important que le rejet du monde, la condamnation du monde comme mauvais, laisse place chez lui à un véritable optimisme métaphysique et cosmologique, que la connaissance de soi est pour lui indissociable de la connaissance du monde, et nous verrons qu'il y a un strict parallèle entre l'âme, le soi et le monde, et que le problème du mal est assez rapidement évacué de ses méditations. Ce qui me paraît être une empreinte du néoplatonisme et donc de la philosophie plutôt que du gnosticisme proprement dit. Et il a été rappelé ce matin par Jean-Daniel Dubois que Plotin avait précisément écrit un traité contre les gnostiques. Et de manière significative, cet optimisme métaphysique, cosmologique, marque aussi un écart vis-à-vis de la doctrine imamite originelle, la doctrine chiite originelle, qui est axée sur un dualisme foncier, opposant les forces du bien ou de la connaissance à celles du mal ou de l'ignorance à tous les niveaux de la réalité et donc du cosmos. Or, chez Haider Amoli, le dualisme se voit finalement dépassé ou dissous par un monisme théologique, un tawhid uluhi, et surtout un monisme ontologique, un tawhid wujudi, où l'on reconnaît l'influence du soufisme d'Ibn Arabi. Alors à présent, après cette longue introduction, comme notre auteur d'ailleurs en était aussi coutumier, voyons ce que la vie et l'œuvre de Sayyid Haider Amoli nous disent de ce rapport au chiisme, au soufisme et à la philosophie, justifiant de parler, à mon avis, de gnose chiite plutôt que de philosophie chiite. Alors la ligne de vie de Sayyid Haider Amoli. Henri Corbin écrivait qu'un véritable philosophe n'est pas de son temps, mais qu'il est d'abord lui-même son temps propre et domine donc ce qu'il est abusivement convenu d'appeler son temps, alors que ce temps n'est pas du tout le sien, puisqu'il est le temps anonyme de tout le monde. Alors si l'œuvre de Amoli est en effet fort singulière et si sa pensée se veut méta-historique, transcendant le cours exotérique du temps et de l'histoire, elle n'en a pas moins, un contexte historique d'apparition dont la prise en compte est incontournable. La période ilkhanide et post-ilkhanide en Iran est une période charnière entre la fin de l'hégémonie sunnite avec la destruction du califat abbasside par les Mongols en 1256 et l'établissement du chiisme imamite comme religion d'État en Iran par les Safavides en 1501. Donc Haider Amoli se situe entre ces deux événements. Cet interrègne, chaotique à bien des égards, est marqué par le développement conjoint du chiisme imamite, du soufisme confrérique, de la philosophie illuminative ou orientale, ishraq, ainsi que par l'émergence de nombreux mouvements messianiques. Quant à la vie de Sayyid Haider Amoli, elle nous est essentiellement connue par ses propres relations autobiographiques, dont le caractère apologétique, voire auto-hagiographique, rappelant celui d'Al-Razali, le grand théologien et mystique sunnite, dans son Munqidh min ad-Dalal, le sauveur de l'égarement, appelle une lecture prudente. Membre d'une grande famille de Sayyid, descendant du prophète par le quatrième imam, de la ville d'Amol, près de la mer Caspienne, dans le nord de l'Iran, Sayyid Haider appartenait à l'une des rares populations iraniennes converties au chiisme du haut des Simins bien avant l'ère safavide. Après une instruction dans les sciences exotériques de la langue, du droit et du kalam, il devint ministre du prince du Tabaristan alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Mais à l'âge de 30 ans, nous dit-il, donc vers 1349 ou 50 de l'ère commune, une crise spirituelle l'amène à renoncer à sa carrière mondaine, à sa famille et à sa fortune pour enfiler le froc des soufis, la rirqa, et partir sur les routes des lieux saints chiites d'Arabie et d'Irak. Henri Corbin relève comme une coïncidence étrange que cette même année périssait assassiné le prince Fakhret Daoula qui avait fait du jeune Haider son compagnon et son ministre. Parallèle troublant avec la biographie d'Al-Razali, dont l'abandon de la chaire de professeur et le départ de Bagdad pour 10 ans de retraite spirituelle, ce qu'il relate dans son Munqidh min ad-Dalal, coïncida avec l'assassinat du vizir Nizam al-Mulk, qui le protégeait, par les Ismaéliens. Dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas interdit de penser, mais Henri Corbin l'aurait peut-être désapprouvé, que ces circonstances politiques ont pu peser sur les décisions et options existentielles. Sur la route des lieux saints, Amoli dit avoir reçu un second vêtement, khirqa, initiatique, remontant au prophète Mohammed et au premier imam, Ali ibn Abi Talib, via les 7 imams suivants du chiisme du haut des Simins, Et les fameux maîtres soufis, Ma'ruf al-Karhi, Sari al-Sakati et Junaid al-Baghdadi, bien connus du soufisme. Ce manteau initiatique symbolise donc, dans la présentation qu'en fait Amoli, une connaissance révélée, transmise par les principaux saints du chiisme et du soufisme pour être recueillie par lui-même. Mais le curriculum vitae de notre auteur compte aussi, en contrepoint de cette initiation mystique, un séjour à l'école de Hilla, école théologique et juridique de tendance rationaliste, prônant une orthodoxie très éloignée de la mystique soufie. Après de nombreuses pérégrinations, Haider Amoli se retire à Najaf, auprès du mausolée du premier imam, Ali, où il compose la plupart de ses œuvres et disparaît après 1385. Enfin, il disparaît, nous n'avons plus trace de sa vie et de son activité. Selon ses dires, Haider Amoli aurait composé 40 ouvrages en arabe ou en persan, dont seuls 7 nous sont parvenus, tous en arabe, par de rares manuscrits. Il semble que son œuvre n'ait pas retenu l'intérêt des générations précédentes, des générations suivantes de savants, voire qu'elle ait subi une forme de censure, que ce soit en raison de sa tendance chiite exagératrice ou exagérante, de son adhésion à la doctrine de l'unicité de l'être, Wahdat al-Wujud, des disciples d'Ibn Arabi, ou des deux à la fois. Il semble toutefois que notre auteur se soit beaucoup traduit et recopié lui-même, ce qui limite l'étendue réelle de la perte de ses ouvrages. Alors, je me concentrerai sur ces 3 ouvrages principaux afin d'éclairer autant que possible certains aspects saillants de sa gnose chiite. Le premier ouvrage à examiner est donc le Jami' al-Asrar ou Manba' al-Anwar, la somme des secrets et la source des lumières, édité par Henri Corbin dans la philosophie chiite, que je présenterai comme une réconciliation du chiisme et du soufisme. Donc, ce traité fut composé autour de 1351-52, donc quelques années seulement après ce retrait, cette rupture dans la vie de Saïd Haider Amoli, et il s'agit de l'œuvre la plus diffusée de cet auteur avant l'édition de Corbin, notamment par de nombreuses citations chez un auteur qui s'appelle Ibn Abi Jumhur de la fin du XVe siècle, dont la somme de théologie, de mystique et de philosophie, Al-Mujli, a été, elle, largement diffusée en Iran safavide. Alors, l'ouvrage de Saïd Haider Amoli, Jami' al-Asrar, soutient une thèse à la fois essentialiste, dirait-on aujourd'hui, et méta-historique. Les vrais chiites, Shi'a al-Haqiqiyya, au sens ésotérique du terme, c'est-à-dire ceux qui gardent les secrets spirituels, Asrar, les doctrines ésotériques de l'enseignement des imams, ne sont autres que les soufis. Et les vrais soufis, Soufiya al-Haqiqiyya, sont chiites. Alors, cette thèse est paradoxale sur un plan historique, puisque les soufis se réclament généralement du sunnisme, et que d'ailleurs, pour cette raison, le soufisme est fréquemment réprouvé par les juristes et théologiens chiites. Mais Amoli va plus loin. Ce sont ces vrais soufis qui sont désignés dans un fameux hadith des imams, souvent commenté par notre ami et collègue Mohamed Ali Amir Mouezi, hadith que je cite, « Notre cause est difficile, extrêmement ardue, ne peuvent la supporter qu'un prophète missionné, un ange rapproché de Dieu ou un croyant dont le cœur a été éprouvé par Dieu pour la foi. » Pour Amoli, le vrai soufi est ce croyant éprouvé ou ce croyant au cœur éprouvé pour la foi par Dieu, al-mu'min al-mumtahan. C'est-à-dire que les vrais soufis sont les initiés aux doctrines ésotériques des imams, alors que les chiites nominaux n'en connaissent que l'enseignement exotérique. Cette thèse a pour but, nous dit Amoli lui-même, qui n'était pas complètement au-dessus de l'histoire, d'établir la concorde entre chiites et soufis, en mettant fin à leur anathémisation réciproque, dans un contexte, rappelons-le, d'efflorescence conjointe d'interpénétration, mais aussi de rivalité spirituelle et sociale entre imamisme et soufisme. Toutefois, l'œcuménisme d'Amoli recouvre une opposition tranchée, nous l'avons déjà entendu, entre des formes vraies ou réelles du chiisme et du soufisme, et des formes fausses ou nulles de ces deux courants. Les vrais chiites, au sens exotérique, sont les imamites duodécimains, tandis que les faux sont les ismaéliens, les zaïdites et les exagérateurs, les roulates. Les vrais soufis sont d'abord les maîtres des fondations, censés avoir été les disciples des imams, dont les trois que j'ai cités plus tôt. Tandis que les faux soufis sont les antinomistes, ibahiya, les partisans de l'infusion divine, hululiya, et ceux de l'unification avec Dieu, ittihadiya. Alors, ce double discours inclusif d'un côté, exclusif de l'autre, est généralement partagé par tous les défenseurs chiites du soufisme, qui doivent toujours faire la part entre le bon et le mauvais soufisme. Mais ce discours, chez Hammoli en tout cas, est largement rhétorique, puisqu'il s'expose lui-même assez clairement au grief de soutenir l'exagération chiite, c'est-à-dire la divinisation de l'imam, ou l'unification mystique des soufis. Hammoli retrace l'origine de toutes les sciences, exotériques et ésotériques, dans l'enseignement de l'imam Ali et des imams de sa descendance. Et c'est en particulier le cas du soufisme comme science mystique de l'unicité divine. Tous ces maîtres fondateurs, donc, sont présentés comme des disciples directs ou indirects des imams. Ce récit de l'origine imamite du soufisme appartient à une mytho-histoire, bien qu'il y ait quelques événements, quelques coïncidences crédibles, mais l'ensemble ne l'est pas, et possède une fonction apologétique évidente de défendre la légitimité du soufisme du point de vue chiite. Et par là, ce récit est analogue à un autre récit rapporté chez les philosophes, cette fois en islam, chez les philosophes, mais pas chez Haïdar Hammoli, récit selon lequel la philosophie grecque aurait son origine dans la niche aux lumières prophétiques, Mishkat Anwar al-Nubuwa, les premiers philosophes comme Empédocle et Pythagore ayant été initiés par des disciples des prophètes en Syrie et en Égypte. Donc le récit sur l'origine imamite du soufisme joue pour Hammoli, je pense, le rôle que ce récit de l'origine prophétique de la philosophie jouait chez les falasifas. Cette réconciliation du chiisme et du soufisme passe aussi par la triade conceptuelle de la loi, sharia, de la voie, tariqa, et de la vérité ou réalité, haqiqa. Elle se fonde sur un hadith du prophète cité dès l'ouverture du Jami' al-Asrar. Et donc, c'est l'exemple 1 de l'exemplier que vous devez avoir près de vous. Donc, voici ce hadith du prophète. La loi, ce sont mes paroles. La voie, ce sont mes actions. La vérité, ce sont mes états spirituels. Et voici le commentaire d'Hammoli. La loi signifie l'assentiment aux paroles des prophètes par le cœur et l'action conforme à ce qu'elles commandent. La voie signifie la réalisation de leurs actions et de leurs mœurs par la pratique et l'accomplissement de leurs droits. La vérité signifie la contemplation de leurs états spirituels par la gustation, zawq, et l'assimilation de ces états. Hammoli associe implicitement la loi à la religion exotérique, principalement au droit chiite, bien entendu, la voie à la mystique soufie, principalement éthique, et la vérité à une connaissance spirituelle supérieure que nous pouvons appeler gnose, possédée d'abord par l'imam et transmise à ses disciples les plus initiés des soufis. Et pour montrer que ces trois termes désignent foncièrement la même réalité, Hammoli propose la métaphore suivante, que je ne vous ai pas reproduite, que je résume, que je cite. La révélation, char, est comme l'amande complète, comprenant l'huile, la chair et la coque. L'amande, dans son ensemble, est comme la loi. La chair est comme la voie. L'huile est comme la vérité. Alors, en écrivant que la loi est l'amande tout entière et pas seulement la coque, comme l'aurait voulu l'analogie, Saïd Haïdar Hammoli veut manifestement éviter l'antinomisme, c'est-à-dire l'abandon des prescriptions de la loi au nom de la connaissance ésotérique de la voie et de la vérité. Mais on voit qu'il n'évite ce risque que in extremis et au prix d'une petite incohérence. Enfin, l'harmonisation du chiisme imamite et du soufisme passe de manière encore plus remarquable par un rapprochement de deux langages caractéristiques du chiisme et du soufisme. Le premier, c'est celui des prônes que notre collègue et ami Mohamed Ali Amir Mouezi appelle théo-imamosophiques, et que Christian Jambé a évoqué ce matin, des prônes principalement attribués à l'imam Ali, dans lesquels celui-ci affirme sa nature et ses attributs divins. Et d'un autre côté, un langage propre soufi et bien connu des spécialistes, celui des paradoxes, comme les appelait Henri Corbin, ou des locutions théopathiques, comme les nommait Louis Massignon, les shatahat, ces paroles d'extase dans lesquelles les soufis parlent par la langue de Dieu, Dieu à travers la langue des soufis. Alors c'est l'exemple 2 dans lequel nous allons voir ce rapprochement. Quand l'individu contemple le vrai à la lumière du vrai, le seul rang qui lui reste est l'anéantissement en lui, l'anéantissement mystique ou l'effacement, le fana, dont il a été également question ce matin. On nomme ce rang anéantissement de celui qui connaît dans ce qui est connu, de celui qui contemple dans ce qui est contemplé, du serviteur dans le Seigneur, etc. Cela n'advient qu'avec la levée de la dualité mentale, l'élimination de la multiplicité créaturelle, l'effacement de l'égoïté qui empêche d'accéder au réel véritable. Comme l'un d'entre les soufis, Hallaj en l'occurrence, l'a dit à propos de sa station spirituelle, « Entre toi et moi, un « c'est moi » me tourmente. S'il te plaît, ôte mon « c'est moi » d'entre nous deux. » Comme le dit un autre soufi, Al-Bastami, et là on entre dans les shatahat, « Gloire à moi, comme mon affaire est sublime. » C'est Dieu qui devrait s'exprimer comme ça. Et comme le dit un autre, Hallaj, cette fois, « Je suis le vrai, Analhaq », autrement dit, « Je suis Dieu ». Et comme le dit notre imam et maître, le pôle des docteurs de l'unicité divine, c'est l'imam Ali, et là donc il s'agit non plus d'un chatr, mais d'un de ses prônes théo-imamosophiques, « Je suis la face de Dieu, je suis le flanc de Dieu, je suis la main de Dieu, je suis le signe de Dieu, je suis le premier, je suis le dernier, je suis le manifeste, je suis le caché. » Les derniers termes sont des noms divins. Alors un tel rapprochement de ces deux langages est hétérodoxe à plus d'un titre. En milieu soufi, les shatahat sont souvent écartés ou réprouvés comme imprudence coupable, de même qu'en milieu chiite, ces prônes théo-imamosophiques sont fréquemment jugés inauthentiques et attribués aux exagérateurs roulat qui divinisent l'imam. Et d'autre part, Amoli transgresse ici la doctrine imamite originelle en élevant par cette comparaison les maîtres soufis, ne serait-ce que par intermittence, au rang théophanique des imams. Le deuxième ouvrage de Amoli abordé maintenant est un commentaire chiite critique d'Ibn Arabi. Donc je ne dirai que quelques mots sur ce commentaire par Haider Amoli des Fusus al-Hikam d'Ibn Arabi, commentaire intitulé « Nas al-Nusus », le texte des textes, et composé au soir de sa vie, vers 1380. Henri Corbin et Osman Yahya en ont édité les prolégomènes, Muqaddimat, qui forment pas loin de la moitié du livre, sous le titre « Le texte des textes, prolégomènes », à Téhéran et à Paris en 1975. Et l'ouvrage intégral a été récemment et très bien édité à Qom par Mohsin Bidarfar. L'œuvre d'Ibn Arabi, on le sait, a suscité d'innombrables commentaires d'école. Celui-ci est le premier composé d'un point de vue chiite, mais encore d'un point de vue largement critique. Comme Henri Corbin l'a souvent souligné, Haider Amoli y procède en effet à une correction, en règle, des assertions d'Ibn Arabi relatives au sceau des saints, Khatam al-Awliya. Alors qu'Ibn Arabi voyait en Jésus le sceau de la sainteté absolue ou universelle, et semblait bien se voir lui-même, Ibn Arabi, comme le sceau de la sainteté particulière, c'est-à-dire de la sainteté particulière à la prophétie de Mohammed, Haider Amoli entend rendre aux imams ce qui leur appartient. Le sceau de la sainteté absolue ne peut être que Ali, et le sceau de la sainteté particulière ne peut être que le 12e imam, le Mahdi. Il me semble toutefois que Henri Corbin, peut-être en suivant son propre éthos, a minimisé les termes sévères dans lesquels s'exprime cette critique et prêté un peu hardiment à Amoli, je cite, une extrême vénération d'Ibn Arabi. Amoli, en effet, n'hésite pas dans son commentaire à accuser Ibn Arabi de corruption, façade, à lui dénier la connaissance spirituelle ou la gnose, le irfan, et à le tenir pour réfuter par les trois sources de la tradition, Nark, de la raison, Rak, et du dévoilement spirituel, Kashf. Manifestement, le commentateur se considère ici supérieur à l'auteur de l'ouvrage qu'il commente. Et je crois qu'il faut nuancer le propos d'Henri Corbin, estimant que la doctrine d'Ibn Arabi, je cite, s'est pour ainsi dire spontanément intégrée à la pensée chiite, comme si celle-ci reconnaissait en elle son propre bien. Il me semble que cette intégration n'a pas été si spontanée, disons, ne s'est pas faite sans mouvement contraint. Alors, cette position critique est d'autant plus étonnante que Haider al-Amoli reconnaît l'origine prétendument révélée des Fusus al-Hikam. Ibn Arabi affirmait en effet avoir reçu ce livre en songe des mains du prophète lui-même. Amoli admet que cet événement a eu lieu dans le monde de l'isme, Barzakh, ou l'imagination absolue, al-Khayal al-Mutlaq, appelé ailleurs le monde imaginal ou monde de l'image, Alam al-Mithal, intermédiaire entre le monde des idées et le monde des choses sensibles. Là-dessus, Amoli établit, et c'est à mon avis la raison pour laquelle il accepte la prétention d'Ibn Arabi, il établit une correspondance entre les livres du prophète Mohammed, ceux d'Ibn Arabi et les siens propres. Alors je résume son propos. Deux livres doivent être attribués au prophète, le Coran, qui descendit sur lui, An-Nazal alayhi, et Fusus al-Hikam, qui procéda de lui, As-Sadr minhu, sur Ibn Arabi. De même, deux livres sont à attribuer à Ibn Arabi. Les Fusus al-Hikam, qui se joignit à lui, al-Wasil ilayhi, depuis le prophète, et al-Futuhat al-Makkiya, les ouvertures mécoises, les conquêtes mécoises, qui procéda de lui, as-Sadr minhu. Et de même, Amoli revendique deux livres majeurs, al-Muhit al-A'zam, son commentaire du Coran, qui effusa sur lui, al-Fa'id alayna, sur nous, et Nassan Nusus, son commentaire des Fusus, qui procéda de lui, Sadr minna. Alors, malgré la distinction, enfin, formelle, lexicale, entre descente pour le Coran, Nuzul, jonction pour les Fusus, Wasl, et effusion, Fade, pour son propre Muhit al-A'zam, on comprend que les trois processus relèvent fondamentalement d'un même procès de donation divine. Alors voyons maintenant ce qu'il en est justement de ce commentaire effusé sur effusé sur Haider al-Amoli par Dieu, d'après lui, ouvrage qu'il tenait donc pour son opus magnum. Donc cet ouvrage est Al-Muhit al-A'zam ou Al-Bahr al-Khidam fi Ta'wil Kitabullah, l'océan immense et la mer abyssale sur l'interprétation ésotérique du livre de Dieu. Il devait être à l'origine un commentaire ésotérique, ta'wil, intégral du Coran. Mais seuls ses prolégomènes et son commentaire de la Fatiha, la brève première sourate du Coran, nous sont parvenus, représentant tout de même à eux seuls 7 volumes dans la première édition de Qom et près de 1200 pages dans une édition compactée de Beyrouth. Il contient l'intégralité d'un précédent ouvrage de Amoli, Asrar al-Sharia wa Atwar al-Tariqa wa Anwar al-Hakika, les secrets de la loi, les stades de la voie et les lumières de la vérité, sur la triade conceptuelle de la loi, de la voie et de la vérité, évoquée plus tôt. Et il contient aussi 9 chapitres d'Al-Futuhat al-Makkiya, les ouvertures mécoises d'Ibn Arabi, reproduits in extenso. Alors, à vrai dire, faute d'attestation manuscrite ou de référence chez d'autres auteurs, qu'Amoli lui-même, on peut douter que l'œuvre intégrale, ce ta'wil intégral du Coran, ait jamais été achevée. Son volume serait absolument considérable. En l'état, le livre n'en est pas moins le premier essai d'herméneutique spirituelle du Coran, composé en son nom propre par un penseur imamite depuis l'occultation du 12e imam en 940 ou 41 de l'ère commune. Car selon la doctrine imamite originelle, l'herméneute désigné du livre de Dieu n'est autre que l'imam, héritier spirituel du prophète. Tout comme le prophète Nabi est chargé de la révélation littérale du livre, le Tanzil, la descente du livre, l'imam ou l'allié de Dieu, Wali, est chargé de son interprétation spirituelle ou ésotérique, le Ta'wil. Ceci en raison de son impeccabilité, de son infaillibilité, partagée avec le prophète, et du fait que Ali, le premier imam, reçut l'intégralité du Coran, la lettre et l'esprit, la révélation littérale et l'interprétation ésotérique de la bouche du prophète. Cette doctrine s'appuie également sur une lecture et une interprétation particulière du verset 7 de la sourate 3 que vous avez dans l'exemplier, au milieu de la première page. C'est Dieu qui a fait descendre sur toi le livre. On y trouve des versets clairs, la mère du livre, et d'autres figuratifs. Ceux dont les cœurs penchent vers l'erreur s'attachent à ce qui est dit en figure, car ils recherchent la discorde et ils sont avides d'interprétation. Mais nul ne connaît l'interprétation ta'wil du livre, sinon Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science. Ils disent, nous y croyons, tout vient de notre Seigneur. Il s'agit d'une lecture particulière aux chiites que des philosophes sunnites partagent également, mais le verset dans le monde sunnite en général est lu autrement. Alors, selon les hadiths des imams, ceux qui sont enracinés dans la science, ar-rasikhun fil ilm, et qui, donc, selon cette lecture du verset, partagent avec Dieu la connaissance de l'interprétation du livre, désignent exclusivement Ali et les imams de sa descendance. De fait, un très grand nombre de traditions attribuées aux imams développent une exégèse ésotérique du Coran, tandis que le commentaire coranique par l'opinion raï de la part d'un homme faillible, donc pas un imam, est expressément condamné. Après l'occultation du 12e imam, donc en 940 ou 41, les portes de l'herméneutique se sont fermées dans le chiisme et dans le chiisme imamite, et les tafsirs chiites, pendant de longs siècles, n'ont été que des compilations de traditions exégétiques rapportées des imams. Haïdar Hamoli est le premier auteur chiite, en tout cas ma connaissance, à composer en son nom propre un ta'wil, un commentaire ésotérique du Coran, dans lequel il associe aux traditions imamites, il en cite de nombreuses, des spéculations issues de la théosophie d'Ibn Arabi, mais aussi, plus discrètement, de la philosophie. Alors comment justifie-t-il cette apparente innovation blâmable ? D'abord par un argument rationnel. La nécessité de la grâce divine, l'outf, exige que le livre soit toujours conservé dans sa lettre comme dans son esprit, et qu'existe donc toujours un herméneute divinement inspiré et présent, la différence de l'imam. Ensuite, en donnant une interprétation élargie de l'expression « ceux qui sont enracinés dans la science » « rasikhun fil ilm » dans le verset 3-7, et c'est l'exemple 3. Nous disons que ceux qui sont enracinés dans la science, absolument parlant, sont d'abord les prophètes, puis les messagers, puis les alliés de Dieu, Aoulia, puis les imams, puis les savants héritiers des prophètes et des imams, appelés les docteurs de l'unicité divine, Arbab al-Tawahid. Alors ces docteurs de l'unicité divine, ou ces seigneurs de l'unicité divine, dont Hamoli entend bien faire partie, vous vous en doutez, ont pour pôle l'imam Ali, comme une citation, celle de l'exemple 2, nous l'a déjà fait entendre. Pour Paul, l'imam Ali, et pour patron, Salman le Perse, Salman al-Farsi, compagnon du prophète, fidèle de Ali, considéré comme l'un des tout premiers soufis, comme l'un des pères du soufisme, Salman al-Farsi, au sujet duquel le prophète aurait dit « Salman fait partie des gens de ma famille ». Ce qui signifie pour Haïdar Hamoli qu'en dehors de la lignée des imams, qui sont la famille du prophète au sens strict, eh bien des initiés, comme Salman et comme lui-même, peuvent détenir la science sacrée de l'interprétation du livre. La science dont Hamoli se réclame n'est pas due à une acquisition livresque ou académique, mais à l'état de dévoilement spirituel appelé « kashf », qui complète et qui surpasse les deux autres sources de connaissances que sont la tradition, naql, et la raison, aql. Cette science est aussi désignée comme la science émanée de Dieu, ilm ladouni. Alors ces termes ont une origine coranique et sont empruntés à la tradition soufi, sunnite, d'Al-Razali et d'Ibn Arabi. Implicitement, Hamoli fait donc de la connaissance spirituelle thématisée par les soufis l'héritière est la représentante de la science sacrée ou intelligence sainte des imams après l'occultation. La thèse fondamentale de cette exégèse, ce que l'on peut appeler la décision herméneutique de Haider Hamouli, est que dans le Coran, la notion de livre, kitab, ne désigne pas uniquement le Coran lui-même sur un mode autoréférentiel. Il désigne aussi le livre de l'univers ou livre des horizons, el-kitab al-afaqi, et le livre de l'âme, ou plutôt des, enfin, littéralement le livre des âmes, el-kitab al-anfusi. En référence au verset 53 de la sourate 41 que vous avez dans l'exemplier, nous leur montrerons bientôt nos signes dans les horizons et dans leurs âmes ou en eux-mêmes, fi anfusihim, jusqu'à ce qu'ils voient clairement que ceci est la vérité. Et le commentaire de Haider Hamouli, donc exemple 4, sache que le livre de Dieu ne se limite pas au Coran, ni à la Torah, ni à l'Évangile, ni à d'autres livres célestes semblables à eux, que ces versets ne se limitent pas aux versets du Coran ou d'autres livres célestes, ni ces mots à leurs mots, ni ces lettres à leurs lettres. Mais le monde désigné comme les horizons est tout entier un livre de Dieu comprenant ses versets, ses mots et ses lettres. Il est le grand livre divin. De même, l'homme désigné par les âmes est un livre synthétique divin comprenant ses versets, ses mots et ses lettres. Il est le petit livre divin. Le premier est appelé le grand homme, al-insan al-kabir, le second, le petit homme, al-insan al-sarir. Selon le dire, le monde est un grand homme et l'homme un petit monde. Alors cette double représentation de l'homme comme microcosme et du monde comme macranthrope est bien sûr d'origine philosophique grecque néo-pythagoricienne et fut largement diffusée en islam par les Ikhwan as-Safa. Elle inspire à Haider Hamouli toute une théorie des correspondances entre le livre du Coran, le grand livre du monde et le petit livre de l'âme, illustré par plusieurs diagrammes associant notamment les noms divins, les saints prophètes et imams, les sphères célestes et les parties de l'âme. Ces diagrammes ont été analysés par Henri Corbin dans un texte intitulé « La science des balances et les correspondances entre les mondes en gnose islamique », réédité dans « Temple et contemplation ». Alors ici, l'écart avec l'exégèse imamite traditionnelle, c'est-à-dire attribuée aux imams, doit être souligné. Alors d'une part, il y a cet optimisme métaphysique ou cosmologique dont je parlais, et d'autre part, alors que l'exégèse imamite est presque toujours imamocentrique, c'est-à-dire centrée sur les personnes des imams, l'exégèse de Hamouli est anthropocentrique, centrée sur l'homme cosmique ou l'homme comme microcosme, ou le monde comme macranthrope. Ce principe est ainsi appliqué au verset 109 de la sourate 18, que je cite, dit « Si la mer était une encre, je crois que vous ne l'avez pas sur l'exemplier, j'en suis désolé. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne tarissent les paroles de mon Seigneur, même si nous apportions encore une quantité d'encre égale à la première. » Et le verset 27 de la sourate 31, « Si tous les arbres de la terre étaient des calames, et si la mer et cette autre mer avec elle leur fournissaient de l'encre, les paroles de Dieu ne l'épuiseraient pas. Dieu est puissant et sage. » Alors je résume le commentaire de Hamouli. Le livre dont les lettres et les mots sont en nombre infini n'est ni le Coran, ni la Torah, ni l'Évangile, ni aucun autre livre révélé, contrairement à ce que disent les commentateurs exotériques, Mufassirun. Car du point de vue extérieur formel, min haytha sura, les lettres et les mots du Coran sont bien sûr en nombre fini et s'épuisent, bien que du point de vue ésotérique et spirituel, min hayth al-ma'na, ils soient en nombre infini et inépuisable. Mais le livre dont il s'agit dans ces versets, nous dit Hamouli, est le livre de l'univers ou le livre de l'âme, dont les mots, qui sont des réalités essentielles, haqa'iq, sont inépuisables et en nombre infini. Alors par conséquent, pour Hamouli, la tâche de l'herméneute ne se limite pas à comprendre le Coran en lui-même et par lui-même, mais s'étend au déchiffrement du cosmos et de l'âme humaine. C'est dire que l'herméneutique du Coran appelle toute une philosophie comme connaissance de l'âme, psychologie, et connaissance du monde, cosmologie. Haider Hamouli fait encore sienne la théorie si controversée de l'unicité de l'être, « wahdat al-wujud », élaboré par les disciples d'Ibn Arabi, théorie qu'il désigne, lui, comme un monisme ontologique, Tawhid al-Wujudi, complémentaire du monisme théologique, Tawhid al-Uluhi, soit du monothéisme au sens exotérique. Alors, ce sera l'exemple 5, et c'est encore une interprétation du verset déjà cité. Nous leur montrerons bientôt nos signes dans les horizons et dans leurs âmes. Donc, Amoli écrit ceci. « Sache que la signification de sa parole est de s'adresser ainsi à ses purs serviteurs. » Donc, il va parler au nom de Dieu. « Nous perfectionnerons l'œil de votre vue intérieure par la lumière de notre vision directe et de notre droite guidance, afin que vous acquériez la capacité de connaître nos signes cosmiques et psychiques, de nous contempler par une vision directe dans chacun de ces signes, et que vous aperceviez clairement qu'il n'y a dans l'être rien d'autre que nous, nos noms, nos attributs et nos actes. Car ce qui est autre que nous n'est que pure inexistence et pur néant. C'est pourquoi le gnostique, Aref, d'entre nos serviteurs, dit « Il n'y a dans l'existence que Dieu très haut, ses noms, ses attributs et ses actes. Tout est lui, par lui, de lui et à lui. Et nous avons dit, toute chose périt à l'exception de sa face. Le jugement lui appartient, vous serez ramené vers lui. » Verset 88 de la sourate 28. La face est l'expression de son existence, de son essence, de sa réalité. Sa parole revient donc à dire que toute chose périt et disparaît, sauf son existence, son essence et sa réalité. Haïdar Amoli met aussi en œuvre une herméneutique, alors pour le coup typiquement philosophique, et telle qu'on la rencontre d'ailleurs chez Avicenne, établissant un réseau de relations entre les hypostases néoplatoniciennes de l'intellect premier, al-aql al-awwal, et de l'âme universelle, al-nafs al-kulliya, avec des couples de symboles coraniques, comme le kalam, al-qalam, et la table gardée, al-lawh al-mahfouz, la mère du livre, al-kitab, et le livre explicite, al-kitab al-mubin, pour désigner à chaque fois deux niveaux de la création divine, un niveau universel indifférencié et un niveau de particularisation et de différenciation. Alors, c'est l'exemple 6. L'intellect et l'âme sont les deux mères du livre. D'après sa parole, Dieu efface ou confirme ce qu'il veut. La mère du livre se trouve auprès de lui. Verset 13-39. Et sa parole, voilà ce qui est écrit dans le livre. Verset 17-58. L'intellect premier et l'âme universelle sont les deux formes synthétiques et analytiques du livre. L'intellect premier est le livre synthétique universel, par la confirmation des choses qui sont en lui sur un mode indifférencié. L'âme universelle est le livre analytique particulier, par la confirmation des choses qui sont en elle sur un mode différencié. Et selon une autre interprétation, l'âme universelle est désignée par la table gardée, dans les versets 21-22 de la sourate 85, et l'intellect premier par le kalam. En effet, l'intellect premier, parce qu'il effuse les sciences et les réalités véritables sur l'âme universelle, est semblable à un kalam, tandis que l'âme universelle, parce qu'elle reçoit ses données, est semblable à la table. Alors, malgré ces échos très nets de philosophie néoplatonicienne, Haïdar Amoli prononce un jugement sévère à l'égard des falasifa, les philosophes, entendre ceux qui s'en tiennent à la connaissance rationnelle et qui sont plutôt appelés dans la philosophie de l'Ishraq, la philosophie de l'illumination, désignés comme les péripatéticiens, al-Mashar Iyun. Alors, la critique de Amoli est à la fois théologique, relative aux dogmes de l'islam, et épistémologique, relative aux modes de connaissance et à leurs résultats. Et elle s'exprime précisément dans l'analyse d'un pilier de l'islam, le combat sacré ou la guerre sainte, le djihad, mais du point de vue ésotérique de la vérité, qui est encore intérieur au point de vue de la voie, qui est lui-même intérieur au point de vue de la loi. Et donc, c'est le dernier exemple, l'exemple 7. Pour les hommes de la vérité, après le djihad de la loi et le djihad de la voie, le combat sacré djihad de la vérité désigne leur combat et leur lutte contre la raison théorique, al-aql al-nazari, afin de repousser ses sophismes et ses doutes. Ceci car la raison théorique pense toujours dans la détermination et la définition, alors que l'objet recherché existe toujours dans l'absolu et le détachement, conformément à l'amour et à la gustation spirituelle. Qu'est-ce que la raison sait de l'amour ? Il est avéré que la raison est vis-à-vis de l'amour et de ses connaissances, dévoilements et contemplations, ce que l'opinion est vis-à-vis de la raison, de ses connaissances et perceptions. De là vient l'opposition entre d'une part les données de la raison et de la démonstration, et d'autre part celles des prônes inspirés et de la révélation, procédant de la source éminente d'amour et de gustation qu'est le messager législateur, Mohammed. Je crois que j'ai dû sauter quelque chose. Ah oui, alors excusez-moi, je reprends la phrase. Certes, la plus grande partie des jugements de la révélation procédant de la source éminente d'amour et de gustation qu'est le messager législateur disconviennent aux détenteurs de la raison et à ses jugements rationnels. De là viennent les sophismes des philosophes et des brahmanes. Les philosophes nient la résurrection corporelle et la connaissance par Dieu des particuliers temporels. Ils professent que le monde est éternel, que Dieu en est la cause et qu'il est le causé de Dieu et d'autres choses semblables. Tout cela suivant le seul jugement de leur raison faible, impuissante à saisir les secrets de la révélation. C'est pourquoi les partisans de l'unicité n'ont de cesse de combattre les philosophes et les brahmanes dans toutes les régions du monde par l'épée spirituelle. Tel est le combat sacré des hommes de la vérité. Il n'est mené que contre les docteurs de la raison pour éliminer leurs sophismes et repousser leurs doutes, afin de les ramener de la voie de la raison théorique à la voie de l'intuition véritable et de l'amour divin, de la révélation et de l'inspiration. Alors Amoli entend ainsi mener une véritable croisade spirituelle pour convertir les philosophes à ce qu'il faut bien appeler, ou ce qu'on peut bien appeler, la gnose chiite. Une connaissance salvatrice, obtenue par un retour de l'âme sur elle-même, soit par une expérience spirituelle et non par une spéculation intellectuelle ou une acquisition scolaire. Et une connaissance salvatrice parce que conforme dans son contenu comme dans sa réception, à la science sacrée du prophète et des imams. Dans l'œuvre de Saïd Haïdar Amoli, la gnose chiite peut donc être décrite comme un syncrétisme au sens étymologique, le grec soukrétismos, l'alliance et la réconciliation des crétois. Alors ici, les crétois sont un certain chiisme, un certain soufisme et une certaine philosophie qui ne dit pas son nom. Le chiisme imamite originel, ésotérique et non rationnel, qui affirme la nature théophanique de l'imam. Un soufisme aussi bien spéculatif qu'extatique, akbarien d'après le Cheikh al-Akbar ibn Arabi que halladjien d'après Hallaj, et la philosophie néoplatonicienne fondée sur le paradigme de l'émanation, de l'effusion et la hiérarchie des hypostases, Dieu un, l'intellect et l'âme. Une alliance vouée à résister au devenir exotérique de la religion chiite, une gnose destinée au salut non du seul sujet de la pensée, mais aussi, faut-il croire, de l'islam spirituel lui-même. Je vous remercie.